RMC, Intégral Tour, Martial Fernandez.
Et avant de revenir sur cette belle victoire de Thibaut Pinot à l'Alpe d'Huez et le maillot jaune conservé par Chris Froome malgré les attaques de Nairo Quintana, juste quelques résultats de la journée déjà. Le tirage au sort de la Coupe du Monde pour les éliminatoires 2018 en foot, et ce sera copieux pour les Français. Pays-Bas, Suède, Bulgarie, Bélarus et Luxembourg. Il faudra être premier pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde en Russie, ou alors être parmi les 8 meilleurs deuxièmes pour jouer les barrages. Le 10e Grand Prix de Formule 1 de la saison et la 9e pole position pour Lewis Hamilton et sa Mercedes devant son coéquipier Nico Rosberg et Sébastien Vettel sur Ferrari. Français Romain Grosjean s'élancera de la 10e place. Renaud Lavillenie qui gagne au meeting de Londres avec un saut à 6m03 à 4 semaines des championnats du monde d'athlétisme à Pékin. Et puis le rugby, la Nouvelle-Zélande qui bat l'Afrique du Sud 27-20 pour la 2e journée du Four Nations. Et l'équipe de France, elle va quitter Tignes pour quelques jours de repos dans sa préparation pour la Coupe du Monde. Thierry Bourguignon et Luc Leblanc dans la descente de l'Alpe d'Huez. On t'entend toujours, Lucho. Tu es toujours là ?
Je suis toujours vivant.
Toujours vivant, dans le convoi pour essayer.
Non, pas encore. J'ai pris la voiture, je sors du parking.
D'accord. Tu vas te placer dans le peloton de la descente de l'Alpe d'Huez.
Et je vais me placer surtout dans le peloton de tête, tu vois.
Il vaut mieux, hein. Tu vas prendre le vent, mais c'est pas bien grave.
Tu conduis pas.
Voilà. Ah, j'ai le casque et tout. Non, je suis très bien.
Tu es bien installé. Très bien. Le 32-16 et le hashtag RMC Live, donc, pour poser vos questions à Thierry Bourguignon, à Luc Leblanc. Revenir sur cette étape, donc, avec, je vais le rappeler, le classement rapidement. Thibaut Pinot qui s'impose à l'Alpe d'Huez, 18 secondes devant le Colombien Quintana. Le troisième, c'est le Canadien Ajdal. Valverde et Froome sont à 1.38. Pierre Roland termine sixième de cette étape. Et puis, un petit peu plus loin, on a Nibali et Contador qui ont concédé 3.30 donc sur Thibaut Pinot. Et au classement général, vous l'avez compris, Chris Froome garde son maillot pour 1 minute et 12 secondes sur Quintana, avec Valverde qui, pour la première fois sur le tour, sera sur le podium. Il termine à 5.25. Nibali 4e à 8.36. Contador 5e à 9.48 côté français. Le 9e, Bardet. 10e, Roland. 14e, Barguil. 16e, Pinot. Et puis on va le citer, 18e, Mickaël Schérel. Le 32-16 ou le hashtag RMC Live pour poser toutes vos questions.
Et on a
Damien avec nous au 32-16. Bonsoir Damien.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Thierry, bonsoir Lucho, bonsoir le druide, bonsoir tout le monde.
Non, il n'est pas là.
Il n'est pas là, le druide.
Bonsoir, bonsoir.
Bienvenue Damien.
Bon. Voilà, j'avais une question à poser là.
Vas-y, pose.
Savoir si Quintana, au niveau de la croix de fer, du croix de fer, là, quand ils ont fait exploser tous les équipiers de Froome avec Valverde, ils se sont bloqués au mieux après dans la descente, alors que Froome n'avait plus personne derrière lui. Alors que s'ils avaient continué à rouler, je pense que les équipiers de Froome n'auraient pas réussi à revenir. Normalement, parce que Valverde est quand même un très bon descendeur. Et que Quintana perd son Tour de France là.
Et oui, mais le problème, c'est qu'ils se seraient entamés tous les deux. Ils se seraient entamés à rouler tous les deux. Il aurait fallu avoir des équipiers pour qu'ils puissent rouler pour eux. Et que, bien sûr, on est toujours pareil, que Valverde puisse se sacrifier pour Quintana. Ce qu'il n'a jamais fait, en fait.
Il y avait quand même un équipier devant à ce moment-là.
Oui, il
Movistar,
avait un équipier qui l'a aidé, ouais, qui l'a aidé dans l'Alpe d'Huez.
Quand... Ouais, il a aidé un petit peu quand même. Il a
aidé bien, peu, même, ça, bien.
Ouais, même
bien.
Très bien. Ouais, ouais. Après,
très bien.
Bon, il a passé le relais à Quintana, mais Quintana, après, bon, il en a remis une petite couche. Mais bon, on a eu peur quand même pour Thibaut à un moment donné. Hein. Franchement, à trois bornes, ouh, là, ça baissait un petit peu et après ça s'est stabilisé. Mais on a cru que Quintana allait revenir sur Thibaut, mais Thibaut il a fait un exploit aujourd'hui, hein. Je peux te le dire, parce que la grosse bagarre derrière avec les leaders pour essayer de repiquer le maillot jaune à Froome, je peux te dire que Thibaut il a bien géré devant.
Mais pour moi, de toute façon, même Quintana n'avait pas les jambes pour suivre Thibaut dans la montée.
Oh, si, puisqu'il a bouché le trou, il faut savoir.
Il arrive à 15 secondes.
18, exactement. Oui. Il a repris du temps, dans la montée.
Oui, mais Pinot a fait combien d'échappées devant?
Oui, mais il roulait pas. Donc, il était dans la roue de l'échappée. C'est tout. Alors, qu'il soit devant ou derrière, il dépensait pas plus d'énergie dans l'échappée que s'accrocher avec les à-coups dans la montée de la Croix de Fer. Que les autres ont subi. Non, mais le problème de la Croix de Fer est la Croix de Fer était trop loin du pied de l'Alpe d'Huez. En fait, le sommet de la Croix de Fer. Il y avait toute la descente qui n'est pas vraiment une grosse descente puisqu'il y a une remontée après le barrage. Et après, il y a toute la plaine qui est très longue et souvent on a vent dans la figure. Donc c'est compliqué d'aller. Et à deux, ils pouvaient pas mettre en difficulté sans s'entamer avant d'arriver dans l'Alpe d'Huez.
D'accord, ok, c'est bon. Je vois pas, moi j'ai regardé un petit peu l'étape, je suis dans mes vignes au milieu des Côtes-du-Rhône, pas loin de chez vous, monsieur Bourgui.
Ah, bah oui.
Et puis, je suis à Roche-Gude, à la limite entre Bolène et Orange, moi.
Ah. Avec du bon vin là-bas.
Hein.
Ah, ben, écoute-toi, il va y avoir une étape du tour l'année prochaine chez vous. Comme ça, je vais faire la loutre chevrobite chez vous.
Hein. Ouais, ouais. Moi, je suis pas loin de Saint-Paul-Trois-Châteaux aussi. Vous êtes passé deux fois en étape.
Ah, ben oui.
D'accord.
Ben,
voilà.
Et alors, Lucho, tu t'es même pas arrêté là-bas? Qu'est-ce que tu fais?
Ben, il m'a pas appelé.
Non, le tour, il passait pas. C'est pas devant chez nous.
Ouais, mais
Valence, il passait pas loin.
Valence, c'est pas loin non plus.
Ah, ben, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Roche-Gude, il y a 10 kilomètres.
Ah, voilà.
Ouais.
Merci Damien de nous avoir appelé au 32-16.
Merci à vous.
À bientôt.
Allez, bonne soirée Damien.
Posez vos questions. Thierry Bourguignon et Luc Leblanc qui lui est dans la descente. Enfin, tu as démarré ou pas d'ailleurs, Lucho?
Ouais, je suis en train de prendre un convoi, mais attends, deux secondes.
On attend. On n'a pas de problème.
On attend rien du tout. On t'attend pas. Il y a
Cyril Saugrin qui nous écoute sur son compte hashtag RMC Live, l'ancien coureur. Les Movistar n'ont-ils pas perdu le tour hier quand Froome était esselé, Thierry?
Ben oui, mais ça on l'a dit. Alors attention, est-ce que les adversaires de Froome avaient les jambes à ce moment-là? Bon, il y a que Quintana qui a attaqué et on m'a dit que Bardet, parce qu'à un moment sur l'image, on voit que Bardet est dans la roue de Froome.
Hier.
Quand Quintana attaque, Froome démarre et Bardet prend pratiquement la roue du maillot jaune. Mais il s'est relevé assez rapidement et il a dit que ça montait à une grosse vitesse et qu'il était pas capable de suivre le rythme et que s'il avait essayé de suivre le maillot jaune, eh ben, il allait sauter un peu plus loin. Donc, c'est vrai que Quintana aurait dû, mais ça je le répète et je me dis que Movistar a fait une grosse erreur, c'est que au pied de la dernière montée, il fallait que Valverde se sacrifie, monte à bloc et prépare le terrain pour Quintana. Et Quintana était en forme puisque ce qu'il a fait, il l'a fait sur 5 km, il aurait pu le faire un peu plus sur 10 km à la rigueur. Bon, aurait-il pris plus de temps? Peut-être, mais on le saura jamais. Hein?
Le 32-16 ou le hashtag RMC Live pour poser vos questions. Thierry Bourguignon ou Luc Leblanc. Chris Froome tient à l'arrivée. Il a 30 ans, hein, Chris Froome. Il gagne son deuxième tour. Il dit, je vais courir jusqu'à 36, 37 ou 38 ans. Avis aux amateurs qui voudraient le détrôner du maillot jaune. 32-16, le hashtag RMC Live. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
20h12 sur RMC. Dans 15 minutes, la page football. On reviendra sur la poule de qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018. Pays-Bas, Suède, Bulgarie, Bélarus, Luxembourg. On ira aussi du côté d'Angers, promu en Ligue 1 cette saison. Et puis on fera un petit point sur le Mercato Show. Vous avez aussi l'after, le 32-16, le hashtag RMC Live. Tout ça, c'est à partir de 21h. Là, on est dans l'intégral tour. On est avec Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. On a aussi le 32-16 et le hashtag RMC Live pour que vous nous posiez toutes vos questions. Et on est avec Patrick au 32-16. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir.
Bienvenue bonsoir. Patrick.
Oui, bonsoir messieurs. Je pose ma question. Oui.
Allez-y.
Oui, je voudrais savoir si la polémique sur les soupçons de dopage ou d'assistance électrique sur Monsieur Froome est-elle uniquement relatée par les médias français et savoir si dans les autres pays, est-ce qu'on met autant d'importance à cette histoire, si l'on peut dire, voilà.
Alors, pour tout vous dire, j'ai discuté avec les Italiens, ils n'ont pas fait de polémique en Italie. Pour l'Italie, après, pour les autres pays, je ne sais pas, mais en Italie, il n'y avait pas de polémique sur Froome.
Ouais, l'Italie, ils l'ont eu juste avant pour le Giro, où il y avait une polémique sur Contador. Mais il faut arrêter, là, et je pense qu'il n'y a qu'une personne, du moins, il n'y a qu'une instance pour arrêter tout ça, c'est l'UCI. L'UCI, il faut qu'ils mettent les moyens de contrôler tous les vélos et à la rigueur, de poser des scellés comme on pose sur les voitures de course. Oui. Et c'est tout.
Parce que, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne, si vous voulez. On parle de Froome et finalement, Quintana, qui est à une minute, il est tranquille. On n'est pas étonné qu'il y a une minute, on n'est pas dans une illégalité de fonctionnement dans ce sport. Et si on a une minute d'avance sur l'autre, et finalement, il y a des petits dessus, c'est intriguant, quoi. Voilà. C'est ça qui me surprend.
Non,
personne,
mais
on parle pas du deuxième, voilà.
Oui, il faut arrêter de s'interroger sur tout. Je pense que les vélos électriques, c'est bon. Peut-être que ça a été utilisé, aujourd'hui, depuis que l'affaire a été sortie sur Paris-Roubaix et Tour des Flandres,
avec
Cancellara,
l'image en tout cas.
L'UCI a mis en place des contrôles de temps en temps. Il y en a eu sur le tour.
Il y en a eu 5 ce soir. Pinot, Froome, Contador, Quintana et Valverde.
Ben voilà.
Contrôle des vélos.
Suffit de faire des contrôles et puis voilà.
Bon. Bah écoutez, je vous remercie.
Eh ben,
à merci
bientôt,
à
Patrick.
Vous.
Et bonsoir. Au revoir.
Salut. Salut Patrick. On est avec Julien au 32-16. Bonsoir Julien.
Oui, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe de RMC.
Bonsoir Julien.
Julien.
J'avais une question, je voulais savoir à propos des Français, notamment de Romain Bardet. Je voulais savoir si ça serait pas plus avantageux cette année, lui, qu'il fasse le Tour d'Espagne pour prendre un peu plus de caisse et avoir peut-être un peu plus de chance d'obtenir un podium. Parce que, je dis pas, Romain Bardet, c'est vrai qu'il court quand même, on va dire, de février à octobre. Mais je serais curieux de le voir sur un tour d'Espagne. Ouais. Cette année, apparemment, ils annoncent un plateau peut-être un peu relevé. Mais j'en suis sûr qu'il aurait ses chances de faire un podium.
Attention, en Espagne, c'est pas facile de gagner non plus. Hein,
J'ai pas dit ça, ouais. Attention. J'ai dit que le plateau n'était pas le même comme au Tour d'Italie. Le plateau n'est pas le même qu'au Tour de France.
Oui, mais a priori pas tous les fantastiques. Contador
se posait la question.
Contador était prévu normalement.
Bon, ça lui ferait trois.
Prévu Contador.
Contador était prévu, mais après la claque, du moins le surentraînement qu'il a eu avec l'enchaînement du Giro et du Tour, il va peut-être revoir ça à la baisse. Bien que la Vuelta soit un peu plus loin, du moins un peu plus espacée du Tour, mais quand même.
Froome se posait la question. Vinokourov veut que Nibali aille faire le Tour d'Espagne.
Il faut qu'il sauve sa saison.
Ça serait quand même du monde. Hein. Lucho, oui. Le Tour d'Espagne pour se faire la main, pour aller chercher des places, des podiums, pour Bardet. Est-ce que ce serait une bonne idée dès cette année?
C'est pas mal du tout. C'est pas mal parce que Brard, il a la possibilité de faire un beau Tour de France. Un beau Tour d'Espagne, pardon. Un beau Tour d'Espagne. Et c'est vrai que ça serait pour lui... une belle expérience pour pouvoir faire un excellent tour de France par la suite. Alors, est-ce qu'il doit faire deux grands tours cette année? Il faut voir, parce qu'il est quand même jeune.
Il a 24 ans.
Il a 24 ans, oui, il peut le faire. Est-ce qu'il peut attendre encore un petit peu? Un an.
Mais attention,
Lucho. Est-ce que Quintana, il va le faire le Tour d'Espagne d'ailleurs?
Attention, Lucho, parce qu'il a quand même enchaîné pas mal de courses. Depuis le début de saison, il enchaîne les courses, donc il ne faut pas non plus le cramer.
Il en a fait moins que l'année dernière quand même des courses. Justement, il a allégé son calendrier de course, il me semble.
De toute façon, c'est son directeur sportif qui doit en parler avec lui et à savoir déjà si le coureur a une envie d'aller faire une course comme la Vuelta.
Merci Julien.
Juste un petit truc. Aujourd'hui, j'ai essayé d'intercepter Luc Leblanc. J'avais du saucisson de la Haute-Loire à lui faire goûter. Il s'est pas arrêté. Il m'a
fait chier. T'aimes pas le saucisson, quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Bravo, Lucho, bravo.
Ah ben mince, tu pouvais pas te mettre au milieu de la route.
Ah ben si, mais tu l'as même écrasé.
Il y avait des barrières.
Mince. Ah ouais, il fallait te mettre avant les barrières alors.
Oh, c'est pas grave.
J'ai tellement été acclamé dans la montée que je savais plus où j'en étais.
Oh les chouilles, t'arrives à conduire encore?
Bon, tant pis pour le saucisson. À bientôt, Julien.
À bientôt, merci Julien.
Au revoir, Julien. À très vite. On a Pierre, 32. Il y a beaucoup de monde ce soir. Le hashtag RMC Live aussi pour poser toutes vos questions. Pierre, bonsoir.
Bonsoir à toute l'équipe et merci de m'accueillir.
Bonsoir, Pierre.
Bienvenue, Pierre.
Donc, je voulais aborder un sujet un peu différent de tout ce qu'on a depuis tout à l'heure. Alors j'ai suivi avec mon père les trois dernières étapes du Tour, donc les trois étapes alpestres. Comme beaucoup de spectateurs, j'ai utilisé la technique, je monte le col sur mon vélo, ensuite je me place dans les spectateurs. Et mon ressenti, ainsi que tous les gens avec qui j'ai pu parler cette année, c'est que les cyclistes cette année sont de plus en plus indésirables. On a vraiment l'impression de ne pas être le bienvenu sur les routes du Tour. Alors certes, il y a la caravane, il y a le tout... C'est la fête du Tour qu'on connaît, mais priorité à tout ce qui est les voitures qui passent, les VIP encadrés par 15 motos de gendarmerie chacun, on se fait dégager des routes. Et ce qui m'a paru le plus choquant, c'est sur l'étape du col du Glandon. Je me suis retrouvé en haut du col du Glandon avec mon père qui était plus bas parce que j'étais monté plus vite que lui. Et j'ai été interdit de descendre, à moins de laisser mon vélo en plein milieu pour qu'on me le vole. Et mon père, qui était plus bas, n'avait pas le droit de me rejoindre. Ah oui. Et c'est ce qui illustre pour moi tout ce que j'ai eu pendant ces trois étapes, où on a vraiment l'impression qu'on ne veut pas de nous, quoi.
C'est des questions de sécurité aussi, hein, oui, d'arrêter les vélos assez tôt.
C'est le problème de la sécurité. C'est la seule course, le Tour de France, c'est la seule course où on privatise la route. La route appartient à ASO, l'organisateur du Tour de France. Et c'est vrai que si... Alors, on peut s'offusquer de toutes les mises en sécurité de choses et d'autres, mais malgré tout ça, il y a du monde qui peuvent interférer sur la course.
Ouais, et en plus, la sécurité, le Tour, on en a besoin quand même. C'est pour la protection des gens aussi qui montent et qui descendent en vélo. Il y a des voitures officielles qui montent. Et pour la sécurité donc de ceux qui montent en vélo ou qui descendent, parce que j'ai pu croiser des coureurs qui descendaient à bloc en vélo et on était à la limite de se faire insulter parce qu'on montait sur la direction de la course, hein, sur le parcours. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la route, elle est complètement fermée, quoi. Alors une voiture qui monte vite, qui coupe un peu un virage et tu vois un cycliste descendre à bloc alors que la route elle est coupée, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est pour ça que la sécurité elle est au maximum sur le Tour de France et on ne peut pas faire le reproche à la Société du Tour et à la Garde républicaine de pouvoir protéger les spectateurs et notamment les cyclistes aussi.
Et si vous voulez, je comprends qu'il y a la sécurité qui est très très bien. Moi ça fait depuis 2011 que je fais ça et en effet... C'est normal de sécuriser parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur le Tour, surtout chez les spectateurs. Mais là, j'ai l'impression que cette année, j'ai eu le petit trou. Là, je me suis dit, là, ça devient trop. Tout à l'heure, j'ai grimpé l'Alpe d'Huez. À un moment, on a été limite plaqué contre le bord de la route. Il était même pas 10h, il était 9h30 du matin. Pour qu'une voiture, un beau monsieur tout en costume... passe dans sa voiture avec un gyrophare, avec 9 ou 10 motos de gendarmerie. Résultat, on s'est retrouvé sur une mauvaise route. On a fait 200, 300 mètres à grimper. Puis à un moment, on s'est dit, merde, on n'est plus sur la bonne route. Et tout ça, on n'arrête pas de voir passer des gens qui ne... J'ai discuté avec des gens, ils ne savent même pas qui sont les coureurs du Tour. On a vraiment un aspect commercial qui se dégage. Je comprends qu'il y a un aspect commercial, il faut bien que le Tour vive. Mais j'ai l'impression que c'est devenu trop. Pour moi, spectateur et cycliste, c'est trop aujourd'hui. On a vraiment l'impression qu'on veut plus de nous.
Est-ce que quand tu vas voir un match de foot, est-ce que tu peux piétiner la pelouse? Non. Donc c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, c'est une arène de sport et la route est privatisée pour qu'on puisse faire du sport. Alors c'est vrai que c'est embêtant parce que vous êtes tous fans de vélo, vous avez tous envie de monter l'Alpe d'Huez ou une autre bosse avant les coureurs, mais il y a un problème de sécurité parce qu'il y a des voitures qui, elles, pensent être les seules sur cette route et peuvent vous percuter, que ce soit des gens en costard ou autre, hein, parce que il y a l'organisation qui avance avant la caravane, il y a la caravane, tout un...
Je suis d'accord, hein, que les techniques passent, ça c'est normal, il faut bien monter le tour.
Ben oui, mais malheureusement, c'est pour la sécurité de chacun aussi.
Merci Pierre d'être venu passer ton coup de gueule au 32-16.
Merci Pierre. Je voulais juste vous remercier pour toutes les émissions qu'on a tous les jours parce que c'est vraiment un bonheur.
Merci à toi. Et puis il faut monter la PES, mais un jour, il y a beaucoup moins de monde et c'est sympa aussi.
À bientôt, Pierre.
Je vous inviterai pour monter avec moi, ce sera plus sympa.
Viens. Je t'invite, je suis au pied du Ventoux, donc passe-moi un coup de fil et puis on monte le Ventoux ensemble. Du moins, départ ensemble, après on ne sait pas.
Si on peut me passer tes coordonnées, ce sera avec un grand plaisir.
Oui, parce que toi, tu es jeune et moi, je suis beaucoup plus vieux.
Pierre, 17
ans. Faudra m'attendre.
À bientôt, Pierre.
Merci, bonne soirée à tous.
Au revoir.
Allez, au revoir.
Le hashtag RMC Live aussi pour poser vos questions. On a Taïkri sur le hashtag qui nous parle d'Alejandro Valverde. Vu l'émotion que procure cette troisième place, on voit bien qu'il a couru tout sur ce tour pour cette place sur le podium. On rappelle qu'il pleurait ce soir, Valverde.
Ben oui, non, mais c'est son meilleur tour. Et puis, il y a une chose qu'on peut pas enlever à Valverde, c'est un coureur du début de saison qui est là du début à la fin de saison. C'est un grand monsieur, mais malheureusement, il a une âme de leader et partager ce leadership, c'est difficile pour lui. Uh-huh. Et il aurait fallu un management à la hauteur pour lui dire voilà, si on veut gagner le tour, il va falloir que tu te sacrifies. Malheureusement, ça n'a pas été fait.
Roger au 32-16, bonsoir Roger.
Bonsoir Lucho, bonsoir Bogui.
Bonsoir Roger.
Oui, pardon, j'attendais que vous me relanciez. Bon, je voulais parler de Quintana. Je crois qu'il a fait une grosse erreur hier matin en ne se demandant pas ce qu'il devait faire pour gagner. Il aurait dû se dire, bon, voilà, j'ai 3 minutes 10 de retard. Ben, faut que je partage le boulot en deux parties. Faut qu'aujourd'hui je parte de loin, d'assez loin, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que ce qu'il a fait. Il aurait fallu qu'il parte 10 à 15 kilomètres plus tôt hier. Donc, il fallait donc qu'il essaie de partir de loin pour regagner la moitié de son débit là de 3 minutes 10, regagner une 30, une 40. Et puis aujourd'hui, en mettre un bon coup sur la meule dès la croix de fer, de façon à combler les 1,40 qui auraient manqué encore.
Alors d'accord avec vous sur la première partie, l'attaque d'hier plus tôt, ok. À la rigueur, s'il avait suivi l'Italien Nibali, ça aurait été bien. Mais attaquer, et c'est ce qu'ils ont fait dans la Croix de Fer, et poursuivre entre la Croix de Fer et le pied de l'Alpe d'Huez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très long et ils se seraient usés pour un gain de temps médiocre. Et la meilleure des choses, aujourd'hui, il a très bien couru, il fallait qu'il attaque au pied de l'Alpe d'Huez, mais malheureusement, il avait déjà trop de temps de retard, voilà, c'est tout. C'est hier qu'il a loupé le tour.
Oui. Hier, il aurait dû attaquer plus tôt, hier, il aurait dû attaquer 5, 6, voire un peu
oui,
plus.
Voilà, au pied de la dernière bosse.
Voilà. Il aurait récupéré un petit peu plus de temps que 30 secondes, et puis tout était jouable aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après,
mais avec des si.
Ah oui, avec des si, voilà.
Et le tour
pense quand même qu'ils vont regretter un petit peu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein.
Mais il y a une 12 à l'arrivée. Il en manque une 12.
Ouais.
Il manque une journée de montagne.
Ouais.
Une journée de montagne.
On va refaire l'étape demain. Allez, hop, on remonte.
En tous les cas, j'aimerais que les étapes soient toutes aussi courtes. Parce que on le voit, quand c'est court, les coureurs ont moins la peur au ventre et moins la peur d'attaquer. Et on a vu une étape très courte comme ça.
Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent aller au bout
en attaquant. 110 km, tu peux prendre plus de risques, tu peux attaquer dès le départ. En plus, il y avait une montée, une descente. Et je regrette que, à cause des problèmes techniques, on n'ait pas pu prendre la vraie route qu'on aurait dû prendre avec le Galibier. Parce que dans le Galibier, oui, là, ils auraient pu mettre Froome en grande difficulté s'il avait eu un jour sans.
Et c'est vrai que du coup, on a fait trois fois le même col dans ces.
Le col de la Croix de Fer, col du Glandon, c'est le même. Donc, on est passé, rapassé. Hein.
Merci.
Est-ce que je peux vous demander une petite question?
Allez-y.
Oui. Si on avait compenser le Galibier par la Croix de Fer, est-ce que vous croyez que la fin de l'histoire aurait pu changer? Si on n'avait pas remplacé le Galibier obligatoirement.
Ben, je pense que Quintana aime bien le fort pourcentage et on sait très bien que le Galibier c'est très très dur et très fort et très long. Donc il y avait très très très. Donc avec beaucoup de traits, on peut espérer que. Mais on aurait pu. Mais de toute façon, on n'y est pas passé. Donc c'est pas la peine de revenir en arrière, malheureusement.
Merci Roger de nous avoir appelé au 32-16. Lucho, Thierry.
Oui.
La demi-heure est passée déjà.
C'est la dernière.
Tu as bien avancé dans la descente, Luc?
Ah, je suis presque en bas là, je suis à bloc là. J'ai mis le 53-11, je ne peux pas mettre plus gros là.
Tu vas dessus.
Attention, il y a des lacets quand même.
La route n'est pas fermée, Lucho.
Non, il y a des relances ici, je suis derrière la gendarmerie. Alors là, je suis pas en défaut. Ouais, il n'y a pas de problème. Et puis un petit coucou à toute la caravane qui remonte sur Paris, les camions, tout le monde, la caravane du Tour, tous ceux qui nous écoutent. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est très très long pour y arriver. Et surtout, soyez prudents les enfants.
Et moi, une pensée pour les participants de la Bourguie de demain.
Demain.
Et oui, demain,
pas que les Champs-Élysées,
c'est la grande Bourguie. Non, les gens qui veulent voir du sport, du vrai sport, ils se déplacent au Ménuire.
Exactement. Et je vous dis à demain, messieurs. Déjà, vous serez dans les grandes gueules demain matin, évidemment, à partir de 10h. L'étape, c'est à 16h aussi, l'intégral tour. Dernière étape entre Sèvres et Paris, ce sera juste après le Grand Prix de Formule 1. Salut Lucho, salut Thierry, le foot dans quelques instants. Et on parle de l'équipe de France qui aura fort à faire dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2018.
À demain, monsieur Leblanc.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour.
Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe?
Non.
Martial Fernandez.
Eh bien, tu t'arrêteras quand tu le verras.
Ils s'arrêteront demain pour la dernière étape du Tour de France que vous pourrez suivre sur RMC à partir de 16h, juste après le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 qui démarre à 14h, 20h33. L'intégral tour, c'est jusqu'à 21h. On ouvre la page football. Vous savez, vous aurez l'after et le 32-16. Le hashtag RMC Live, ça c'est à partir de 21h jusqu'à 23h. Dans quelques instants, on ira du côté d'Angers, un promu. On sera avec son entraîneur Stéphane Moulin. On parlera du tirage au sort qui est pour l'équipe de France pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 avec une poule compliquée pour les Français, Pays-Bas, Suède, Bulgarie, Bélarus, Luxembourg. Et dans tout ça, il faudra terminer premier pour être certain de se qualifier directement. Mais tout de suite, c'est l'heure des transferts.
RMC, le Mercato Show.
Et on est avec Camille Gelpi. Salut Camille.
Bonsoir à tous.
Alors, à l'OM, après l'Assana Diarra, le club réfléchit à un nouveau pari.
Oui, la semaine dernière, nous vous révélions que Marseille surveillait la situation d'Abou Dhabi. Eh bien, selon nos informations, l'Olympique de Marseille dispose d'un accord oral avec le joueur, un accord basé sur un salaire et des primes selon un nombre de matchs joués dans l'année. Diaby est connu pour ses problèmes physiques, il a donc déjà échangé avec le staff médical de l'OM et notamment avec le docteur Christophe Baudot. Mais les craintes subsistent tout de même à Marseille, le club n'a pas encore finalisé le dossier et réfléchit en parallèle à une autre piste. De son côté, Diaby est très intéressé par le projet, mais il est aussi en discussion avec West Bromwich, club pour lequel il a même passé la première partie de la visite médicale.
Et Marseille qui est en train de jouer un match amical contre les Turcs d'Antalyaspor et ça se passe plutôt bien pour les Marseillais qui mènent 4 buts à 1 pour l'instant après 71 minutes de jeu avec début marqué par Lemina, un doublé d'Alessandrini et un but du Belge Batshuayi. Sur le dossier Di Maria, Camille, Manchester United et Paris sont tout proches d'un accord.
Oui, les dirigeants du PSG sont en tout cas optimistes et espèrent un dénouement rapide. Le club a fait une offre de 65 millions d'euros avec bonus. Manchester en espère 75 millions, qui est le prix d'achat. Un proche de Di Maria a confié à RMC Sport qu'il espérait que Manchester assouplisse sa position dans les prochaines heures, car le joueur, lui, veut signer dans le club parisien. Il s'est entretenu ces derniers jours avec Ezequiel Lavezzi et Javier Pastore et il leur a répété son envie de les rejoindre. Ses relations avec l'entraîneur mancunien Louis van Gaal sont froides et sa famille ne se plaît pas à Manchester. Il serait donc d'accord pour un contrat de 4 saisons avec un salaire net supérieur à 10,5 millions d'euros. Son agent, Jorge Mendes, est en discussion quasi quotidienne avec le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, lui qui a souvent l'habitude de transférer ses joueurs par doublette, a proposé un autre de ses poulains au PSG, William Carvalho, le milieu du Sporting Portugal. Thiago Motta veut quitter Paris et le club doit lui trouver un remplaçant. Des discussions ont donc été entamées autour du milieu de terrain. Le Sporting demande 35 millions d'euros.
Et le PSG qui joue ce soir aux États-Unis, match amical contre Chelsea. Alors en Angleterre, c'est Pedro qui pourrait justement remplacer Di Maria. On l'annonce, mais pas tout de suite.
Oui, selon le quotidien espagnol El País, Thaïs, Manchester United aurait accepté de régler la clause libératoire de Pedro, qui est de 30 millions d'euros. Les Reds offriraient un contrat de 4 ans aux joueurs du Barça, mais il faut attendre encore quelques jours, car Luis Enrique, le coach barcelonais, compte sur Pedro pour la Supercoupe d'Espagne prévue le 11 août prochain face à Séville. L'international espagnol ne pourrait donc rejoindre sa nouvelle équipe qu'à la fin de la préparation catalane.
Benzema à 1000% au Real Madrid, c'est son agent qui le dit.
Oui, selon la presse anglaise, Arsène Wenger l'aurait directement contacté pour lui demander de venir à Arsenal, mais Benzema, sous contrat avec le Real jusqu'en 2019, ne cherche pas à être transféré. Cet été, le transfert de Karim Benzema, impossible. Arsenal aurait donc jeté son dévolu sur un autre joueur, Fernando Llorente. Le club londonien serait sur le point de proposer 11 millions d'euros à la Juve pour l'international espagnol. En revanche, toujours pas d'offre de prolongation pour Pepe. Son contrat avec Madrid expire en 2016. Un nouveau contrat avait pourtant été évoqué, mais la discussion est restée sans suite. Le club madrilène miserait davantage sur Raphaël Varane, qui lui est engagé jusqu'en 2020. Le club espagnol pourrait donc laisser partir son défenseur.
Et puis Drogba est courtisé en Inde.
L'Atlético de Kolkata aurait proposé 1 million de dollars pour séduire Didier Drogba, libre de tout contrat jusqu'à la fin de la saison. Il serait question d'un engagement de 4 mois. Et puis dernière info, Mario Balotelli intéresse un club italien. Après sa saison particulièrement décevante, un but en 16 matchs, et avec les arrivées de Roberto Firmino et Christian Benteke, son avenir à Liverpool est incertain, mais que l'attaquant italien se rassure, il reste convoité par un club de 3e division. Le joueur de 24 ans, qui a évolué à l'Inter et au Milan AC, intéresse aujourd'hui l'ASD Lupa Castelli, club de Lega Pro, soit la 3e division italienne.
On met un peu les pieds sur terre. Merci Camille, et toutes ces infos Mercato, bien sûr, à retrouver sur le site rmcsport.fr. D'ailleurs, sur le site, on vous pose une question. Abou Diaby doit-il tenter le pari olympique de Marseille? Vous êtes 72% à dire oui, Marseille doit tenter le pari Abou Diaby. C'est ça la question. Marseille doit-il tenter de recruter Abou Diaby? Sur le site RMC Sport, votez. Pour l'instant, vous dites oui à 72%. On est avec Eric, supporter marseillais. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Eric, ton avis sur cette éventuelle venue d'Abou Diaby, tu votes quoi toi, oui ou non?
Moi je vote oui, parce que si je regarde la configuration de l'Olympique de Marseille, l'équipe comme elle se présente, je dirais que derrière il y a eu des renforts pour l'instant. Devant, il y a quand même assez de bons joueurs, mais pour moi le point faible c'est au milieu de terrain, parce que des joueurs comme Romao ou Lemina, il y a eu le départ d'Imboula qui n'a pas été compensé. Kanté de Caen, pour l'instant, il le voulait, il n'a pas signé, donc il y a des complications. Donc voilà, au final, je dis que moi, faire Diarra plus Diaby, même moi, je dis que c'est une paire en plus qui est complémentaire et qui peut apporter beaucoup de choses dans l'entrejeu marseillais.
Et puis, il est gratuit. En tout cas, le transfert est gratuit. Pas le salaire, bien sûr, mais Abou Diaby, il est libre. Donc
voilà, c'est un joueur
libre. Ça rentre dans les finances du club, ça.
Exactement, c'est pour moi.
Mais bon, c'est un joueur fragile, on le sait. Est-ce que il n'y a pas un risque? C'est ça aussi le risque, Diaby.
Alors,
c'est pas le potentiel qui compte, c'est le physique.
Effectivement, c'est un joueur qui a souvent été blessé, qui est blessé assez souvent. Alors après, est-ce qu'il est fragile? Est-ce que ça vient aussi du staff médical des clubs où il est passé? Je sais pas. Après, c'est l'avenir qui le dira, hein, si c'est un bon choix par rapport à ça. Mais bon. Au départ, je pense que d'après ce que je sais, ce que j'ai vu dans la presse et au travers des radios et tout, il sera pas peut-être titulaire à chaque match, hein, parce que l'OM lui proposerait de jouer à la prime de match. Donc, je pense que par contre, pour encadrer les jeunes et pour faire peut-être un match sur deux, ça peut être une très bonne chose.
Eric, toi qui es supporter de l'OM, et Lassana Diarra, lui, ça c'est fait. T'en penses quoi?
Lassana Diarra, par contre, voilà. Alors moi, la crainte, ben voilà, Diaby, la crainte, c'était ses blessures à répétition dans les différents clubs qu'il a fait. Par contre, Diarra, le souci, c'est que pour moi, il a pas joué pendant un an. Alors le manque de compétition de haut niveau, tout le monde sait que.
Comme Diaby, hein.
Ouais, comme Diaby, mais je dirais que voilà, pour les deux, voilà, il y a un manque de compétition, il y a des blessures à répétition souvent pour Diaby. Quant à Diarra, qui n'a pas joué lui pendant un an, faut voir comment va se passer le début de championnat, s'il sera prêt ou pas prêt, si justement il vient voilà en complément de Lemina et Romao, qui vont peut-être eux attaquer le championnat en tant que titulaire parce qu'ils auront fait toute la préparation. Alors que Diarra, lui, va prendre la préparation en cours, au même titre que Diaby. Donc, mais moi, je dis qu'après, à la longue, Diarra, c'est un très très bon joueur. Il n'a pas été international pour rien. Mmh. Et je pense concrètement qu'une fois qu'il va jouer petit à petit, retrouver du rythme et qu'il va prendre sa place dans l'équipe, je pense qu'il ne sortira plus. Parce que l'OM, cette année, c'est une équipe assez jeune. Et il y a besoin d'un garçon comme ça pour encadrer tous les jeunes qu'il va y avoir.
Merci Eric. À très vite.
À très vite, il n'y a pas de souci. Voilà.
À bientôt.
Avec plaisir.
Et le débat va continuer, bien sûr, dans l'after à partir de 21h. L'OM doit-il tenter le pari à bout Diaby? Vous êtes pour l'instant 72% sur le site RMC Sport à dire oui. Dans quelques instants, on parlera de l'équipe de France qui connaît ses adversaires pour le groupe de qualification de la Coupe du Monde 2018. Ce seront les Pays-Bas, la Suède, la Bulgarie, le Bélarus et le Luxembourg. Puis on ira du côté d'Angers, club promu 3e en Ligue 2 l'année prochaine, qui retrouve la Ligue 1 21 ans après.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
Le train, Thibaut Pinot, est passé sur l'Alpe d'Huez, victoire du Français. Mais là, on est dans la page football, bien sûr, dans cette intégrale tour. On est ensemble jusqu'à 21h. À 21h après, ce sera l'after avec le 32-16 et le hashtag RMC Live. On ira du côté d'Angers dans quelques instants. Mais d'abord, on va revenir sur une petite info Paris Saint-Germain.
RMC, le Mercato Show.
Et on est avec Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Salut Marcel, bonsoir à tous.
Alors Camille Gelpi nous parlait du dossier Di Maria au Paris Saint-Germain, en tout cas en approche du Paris Saint-Germain il y a quelques instants. Tu as des informations toutes fraîches?
Alors des informations toutes fraîches en tout cas sur Angel Di Maria, puisque le Paris Saint-Germain a trouvé un accord de principe avec Manchester United pour le transfert du joueur, un accord avoisinant soit entre 60 et 63 millions d'euros. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre toutes les parties. Pourquoi? Tout simplement parce que Angel Di Maria n'a pas encore donné son accord définitif pour rejoindre le PSG. Il y a encore des négociations contractuelles entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Alors, on dit que l'opération donc n'est pas encore terminée, mais une grande nouvelle ce soir, entre le PSG et Manchester, il y a un accord de principe pour le joueur.
Donc maintenant, ce qui coince, c'est quoi? Le salaire, en gros?
C'est le salaire du joueur. Il y a des négociations actuellement sur le salaire du joueur, mais on est très optimiste du côté du Paris Saint-Germain.
Et on rappelle que le Paris Saint-Germain est en tournée aux États-Unis et que le PSG va jouer ce soir un match amical contre Chelsea. On vous tient bien sûr informé. Vous avez toutes les infos sur le site rmcsport.fr. Mohamed, tu es là aussi pour nous parler de l'équipe de France, parce que tout à l'heure, il y a eu le tirage au sort du côté de Moscou des poules de qualification. La Coupe du Monde 2018 en Russie, c'était à Saint-Pétersbourg exactement, et c'est copieux quand même pour la France.
Oui, ça va être un groupe difficile pour les Bleus, Martial, puisque les Bleus de Didier Deschamps affronteront en phase de qualification de la Coupe du Monde 2018 les Pays-Bas, la Suède, la Bulgarie, le Bélarus et le Luxembourg. Alors, on savait que l'équipe de France n'était pas tête de série. Dans le groupe, le tête de série, ça sera les Pays-Bas. Un groupe délicat pour les Bleus de Deschamps, une poule qui rappelle le fameux traumatisme des qualifications de la Coupe du Monde 1994. Cette année-là, tu t'en rappelles, Martial, les Bleus avaient joué avec la Suède et avaient été éliminés par la Bulgarie, par un certain Kostadinov.
Exactement. À l'automne 93, Ibrahimovic, il jouera pas normalement ses qualifications. Hein, il sera à la retraite internationale, on va dire.
Normalement, il sera à la retraite. Le dernier objectif de Zlatan Ibrahimovic, en tout cas avec la Suède, c'est les JO au 2016 qui auront lieu au Brésil.
Oui, et les qualifs, ça commencera en septembre 2016 et ça s'achèvera à l'automne 2017. Donc on verra où sera Ibra. Juste pour dire aussi qu'il y a quand même d'autres groupes compliqués, avec notamment Espagne, Italie dans le même groupe. On rappelle que pour se qualifier, il faut être premier ou meilleur deuxième.
Premier, les 9 premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde, et les 8 meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les barrages.
D'accord, donc ça c'est Espagne, Italie, Albanie, Israël, Macédoine et Liechtenstein, Portugal, Suisse, Hongrie, Féroé, Lettonie, Andorre, et puis l'Allemagne avec la République tchèque, l'Irlande du Nord, Norvège, Azerbaïdjan, Saint-Marin, l'Angleterre aussi qui tombe dans le même groupe que l'Écosse, Slovaquie, Slovénie, Lituanie, Malte. Des groupes assez équilibrés.
On va dire que pour l'équipe de France, c'est pas un groupe de la mort, mais c'est un groupe très difficile, puisque les Bleus vont devoir surtout se déplacer aux Pays-Bas et en Suède et à Bulgarie. Et on sait que ce genre d'éliminatoire, quand on a plusieurs équipes homogènes, on va dire, dans le même groupe, eh ben c'est toujours compliqué. Et l'équipe de France a souvent du mal à se déplacer dans des pays qui sont un peu plus difficiles, on va dire, comme la Bulgarie, le Bélarus. Clairement, le Luxembourg sera le maillon faible, on va dire, de cette cette phase de qualification. Ensuite, les Pays-Bas, on ne sait jamais avec cette équipe. C'est souvent une génération particulière, les Pays-Bas. La génération actuelle n'est pas très très bonne. Alors pour l'équipe de France, ça pêche une bonne chose. Il faut espérer surtout qu'il n'y ait pas de révélation du côté des Pays-Bas dans les prochaines années.
Un groupe qui va être difficile, c'est ce que nous dit Noël Le Graët, le président de la Fédération française. Merci beaucoup Mohamed Bouafsi. Je rappelle que tu étais venu pour nous dire qu'il y avait un accord entre les deux clubs, Manchester United et le PSG, pour la venue de Di Maria à Paris. Mais pour l'instant, il faut encore régler des détails entre le joueur argentin et le club parisien. On joue ce soir des matchs amicaux avec le Marseille qui mène 5-1 contre Antalya Sport. Tout à l'heure, c'était 4-1. Il y a eu un but supplémentaire d'une recrue. Sarr, c'est Lemina qui avait marqué le premier. Alessandri avait fait un doublé. Batshuayi avait aussi marqué, donc 5-1 pour l'instant après 86 minutes de jeu pour Marseille face à Antalya Sport. Et puis Lyon en a pris une bonne quand même, hein. 6-0 défaite face à l'équipe d'Arsenal. On va maintenant parler d'un des promus de cette Ligue 1 cette saison, le club d'Angers, et on est avec son entraîneur Stéphane Moulin. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Stéphane, vous sortez à peine d'un match amical pour Angers. Oui. Défaite cette fois face à Luçon. Oui. 2-0, c'est ça, club de national. J'ai envie, qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant, les matchs amicaux, ça se passait bien pour vous? Qu'est-ce qu'il y a eu ce soir?
Oh, bah, pas grand-chose, si ce n'est que bon, j'avais quand même mis 8 joueurs au repos qui avaient joué mercredi. Donc on a, comme on a l'habitude de dire, fait tourner l'effectif, enfin fait jouer les joueurs surtout qui n'avaient pas joué beaucoup depuis le début. Donc bon voilà, c'était un choix de ma part. C'était le quatrième match et le cinquième match, pardon, il fallait que tout le monde puisse avoir du temps de jeu pour diminuer la différence entre les joueurs qui avaient joué beaucoup et ceux qui n'avaient pas joué.
On va rappeler le contexte. Angers, ça fait 21 ans que le club n'a pas joué en Ligue 1. Vous avez terminé troisième de Ligue 2 l'année dernière. Et pour vous aussi, personnellement, en tant qu'entraîneur, c'est un apprentissage puisque vous allez découvrir la Ligue 1. Est-ce qu'il y a un petit peu d'anxiété pour vous à titre individuel?
Non, je c'est pas de l'anxiété, c'est plus de, je dirais, de l'incertitude. Mais pas d'anxiété, non, j'ai hâte de découvrir ça, mais avec beaucoup d'enthousiasme et puis d'envie. Mais pas d'anxiété, non, c'est pas d'abord c'est pas mon style et puis ça ne fait pas avancer les choses.
Alors Stéphane Moulin, quand on regarde les mouvements qu'il y a eu dans votre équipe, dans votre effectif, il y en a eu beaucoup. On pourrait résumer comme ça en disant qu'il y a eu quand même beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. C'était une volonté de votre part de remodeler le groupe?
Oui, on a été obligé de modifier notre groupe parce qu'on avait envie de le rafraîchir et aussi de le renforcer. Donc voilà, on a choisi cette option avec les moyens qui nous étaient appartis. Et donc on est satisfait de ce recrutement.
Vous avez pris des joueurs, fait des choix pour exister dans le domaine physique. Je vous cite, vous pensez que c'est le salut pour Angers en Ligue 1 cette année de muscler?
Non, il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect athlétique, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect technique. L'aspect du jeu est important et on va avec notre style et nos moyens essayer de faire bonne figure dans ce domaine parce qu'on est d'abord une équipe qui sait aussi jouer. Mais l'aspect athlétique est très important en Ligue 1 et que si on veut se mettre au niveau. Il faut prendre des joueurs qui soient capables de répondre à ce défi.
Je le disais tout à l'heure, ça fait 21 ans qu'Angers n'a pas évolué en Ligue 1. Est-ce qu'au niveau local, au niveau de la ville, ça met une pression supplémentaire? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes?
Non, je dirais que c'est pas une pression. C'est juste, voilà, la ville, les gens sont très heureux, mais on sent pas de pression. C'est plutôt une folle envie, une folle envie de que ça arrive, puisqu'on a obtenu le droit de jouer. Donc, mais il n'y a pas de pression. Je pense que les gens sont très heureux. Maintenant, on sait aussi que c'est une chose d'y être. Ce sera, certainement différent d'y rester.
Alors Stéphane Moulin, on a eu beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 là ce mois de juillet. Il y a plusieurs écoles. Je vais vous poser une question, on va voir de quelle école vous êtes. Est-ce que vous connaissez les 4 matchs de votre équipe au mois d'août, le calendrier?
Oui, tout à fait.
Vous les connaissez, donc je vais les donner. Montpellier-Angers, pour commencer. Oui. Angers-Nantes, Ajaccio-Angers et Angers-Nice. Oui. Ça veut dire, si vous les connaissez, pour vous, c'est un moment important de la saison quand on est un petit nouveau, comme ça, le mois d'août, pour se lancer?
Tout à fait, parce qu'on sait très bien que, quelles que soient les divisions, le début de championnat est important. Mais c'est pas non plus déterminant, on l'a vu l'an passé. On a eu des équipes qui ont bien démarré en Ligue 1 et qui n'ont pas bien fini. Je prends l'exemple de Metz. Et puis des équipes, à contrario, qui avaient pas bien débuté et qui ont très bien fini, à l'image de Caen. Donc c'est important, mais c'est pas déterminant. Je crois quand même qu'il faut prendre vite nos marques. Et donc c'est aussi pour ça que le début du championnat est important et qu'il faudra le réussir.
Il y aura encore du mouvement chez vous pour le mercato. Je sais que il y a eu le départ de Kodja, notamment votre meilleur buteur l'an dernier en Ligue 2, qui part les sirènes de l'Angleterre, on va dire, même si là c'est pas la première ligue et on peut pas résister. Est-ce que pour vous vous envisagez qu'il y ait d'autres départs ou d'autres arrivées chez vous à Angers, Stéphane?
On sait pas. On cherche quand même encore à se renforcer, mais on sait pas encore si il y aura effectivement des mouvements. On n'a pas encore officiellement clos le débat, mais on aimerait. Oui, il y a débat. On aimerait évidemment d'abord remplacer Jonathan Kodja, même si on va pas le remplacer avec quelqu'un qui va lui ressembler. Mais on aimerait trouver quelqu'un qui puisse quand même nous aider dans le secteur offensif, parce qu'on en aura besoin.
Merci Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, d'être passé sur RMC. À très vite.
Merci, au revoir.
Au revoir, 20h55, on va passer la main. Juste le temps pour moi de vous dire que Marseille finalement a gagné 5-2 face à Antalyaspor. Ça vient de se terminer il y a quelques instants. 20h56, il est là, Guillaume Lagnel.
Eh oui.
Rebonsoir.
Rebonsoir Martial.
C'est quoi le programme de la Fleur? On en a parlé, on va parler de Diaby notamment.
Ouais, on va parler de Diaby, il y a un chouette programme qui va vous attendre dans l'after, 21h, 23h évidemment. On va se poser la question de savoir si l'avenue qui est possible d'Abou Diaby à Marseille serait un bon coup pour le club phocéen. On parlera évidemment du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 pour les Bleus. Ce sera pas simple avec notamment la Suède et les Pays-Bas. On parlera de Jordan Ayew en grève et puis du feuilleton qui pourrait toucher à sa fin avec Angel Di Maria du côté du Paris Saint-Germain. Le mercato chaud également. Et puis Lyon qui a pris une baffe aujourd'hui, battu 6-0 à Londres par Arsenal. On parle tout ça dans l'after, 21h, 23h. Tous vos messages attendus sur le hashtag RMC Live. On vous attend nombreux évidemment au 32-16.